RFI, il est 8h30 en temps universel, tout comme à Dakar, le journal.
Pierre Boudias.
Mahmoud Ali Youssouf, nouvel homme fort de la Commission de l'Union africaine, le ministre des Affaires étrangères djiboutien, élu à la présidence de l'organe hier, une consécration pour l'homme de 59 ans, familier des arcanes de l'UA. Quel objectif pour le M23 dans le sud Kivu? Le groupe armé soutenu par le Rwanda est entré dans la capitale provinciale de Bukavu. Peut-être une simple étape avant de nouvelles avancées, nous dira un expert. 48 morts dans l'effondrement d'une mine d'or au Mali, bilan d'un drame survenu dans un site de l'ouest du pays. Les sources locales évoquent une installation artisanale largement surchargée. Et puis l'impatience monte chez les syndicats sénégalais. Les représentants des travailleurs dénoncent une absence de dialogue avec le nouveau gouvernement. La menace d'une grève générale est à nouveau brandie. La Commission de l'Union africaine connaît donc son futur président après deux mandats du Tchadien Moussa Faki Mahamat. Les États membres votaient hier pour désigner son successeur. Scrutin lors du 38e sommet des chefs d'État et de gouvernement qui se tient à Addis Abeba en Éthiopie. C'est finalement le candidat djiboutien qui l'a emporté sur le favori kényan Raila Odinga. Présenté comme un outsider, Mahmoud Ali Youssouf, 59 ans, a finalement su séduire 33 États membres qui ont voté pour lui. Il prendra ses fonctions le 15 mars prochain. Son portrait avec Clotilde Hazard.
Mahmoud Ali Youssouf est un diplomate de carrière. Il parle trois langues, l'arabe, l'anglais et le français. Ministre des Affaires étrangères depuis 20 ans, le politicien est un habitué des arcanes de la diplomatie, qui plus est dans une région d'Afrique touchée par le terrorisme et les conflits. Décrit comme un homme droit et rigoureux, mais aussi dynamique par ses proches, Mahmoud Ali Youssouf n'aspire pas à devenir un chef d'État et présente donc un profil plus neutre, dédié à sa mission, davantage qu'à ses ambitions personnelles. Le chef de la diplomatie djiboutienne a su montrer son engagement au sein de l'IGAD pour résoudre le conflit au Soudan, un dossier qu'il connaît bien. En juillet dernier, il avait présidé la retraite des médiateurs en préparation de pourparlers. L'événement avait réuni les représentants de l'IGAD, de l'UA, de l'ONU et de l'Union européenne, ainsi que de nombreux États du monde entier. Il a su s'y forger une image de négociateur crédible sur la scène mondiale. Sa responsabilité est immense pour les 4 prochaines années. Il aura pour mission de redonner à l'UA une crédibilité bien entamée sur un continent secoué par les conflits. Clotilde Hazard, Addis Abeba, RFI.
Et au micro de nos envoyés spéciaux dans la capitale éthiopienne, Raila Odinga a salué une victoire de la démocratie. Il se dit disponible pour continuer à aider le continent africain. L'autre perdant du jour, le malgache Richard Randriamadrandrato, a lui demandé à Mahmoud Ali Youssouf de reformer l'Union africaine pour un meilleur accompagnement de la croissance du continent. Le nouveau président de la commission, qui sera épaulé à la vice-présidence par l'Algérienne Selma Haddadi, elle aussi élue hier, a noté que c'est Joao Lourenço qui occupe désormais la présidence tournante de l'Union africaine. Le président angolais très impliqué dans les négociations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et justement, lors de ce sommet, les participants doivent toujours se pencher sur le conflit en RDC. Aucune déclaration officielle hier, mis à part celle du secrétaire général de l'ONU qui appelle à un cessez-le-feu immédiat et d'y craindre une guerre régionale. La première ministre congolaise qui représente Félix Tshisekedi en Éthiopie a cependant refusé ce samedi de prendre place sur la photo officielle. Hors de question de s'afficher aux côtés de l'agresseur, explique-t-on dans son entourage, alors qu'une délégation rwandaise est présente lors de ce sommet. Sur le terrain, la situation reste confuse à Bukavu, la capitale du sud Kivu, dans l'est de la RDC, fait face à une nouvelle avancée de rebelles du M23 soutenue par l'armée rwandaise. Si des éléments de la milice ont été aperçus dans la ville, si cette dernière appelle les habitants à s'organiser, la direction des rebelles ne revendique pas officiellement la conquête de la capitale provinciale. Le mouvement M23 AFC n'exprime pas sa volonté de contrôler Bukavu. Et pour Thierry Vircoulon, chercheur associé à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, c'est sans doute parce que la ville n'est pas un objectif en soi, mais plutôt une étape perçue par le groupe armé comme un point de départ dans une progression aux côtés des forces rwandaises. On l'écoute.
Peut-être qu'il ne compte pas s'arrêter à Bukavu et il compte continuer leur progression ailleurs. Soit ils s'arrêtent là, parce qu'ils n'ont pas assez d'effectifs pour continuer, pour aller plus loin, parce que évidemment, entre leur point de départ au nord Kivu et puis là où ils sont maintenant, ça fait quand même beaucoup de territoire, soit ils descendent sur Uvira. Donc ils continuent pour apprendre la partie utile de la province du sud Kivu, je veux dire, Ils descendent vers Uvira, ils arrivent à la frontière du Burundi. Et donc, en effet, avant ça, il y a des troupes burundaises. Et donc, ça serait extrêmement menaçant pour le gouvernement burundais.
Avec quel risque potentiel à ce moment-là?
Ah ben là, des vrais affrontements avec les troupes burundaises, parce que apparemment, elles n'ont pas vraiment combattu au niveau de Kavumu et de Bukavu. Donc là, par contre, je pense qu'il y aurait des vrais combats.
Thierry Vircoulon, il était au micro d'Amélie Tullet. Une nouvelle offensive, en tout cas dénoncée par l'Union européenne, qui assure que la violation de l'intégrité territoriale de la RDC ne restera pas sans réponse. Le président français Emmanuel Macron appelle lui au cessez-le-feu immédiat et au retour des autorités civiles et militaires congolaises dans la capitale provinciale. RFI, il est 8h35 à Bamako, le Mali, endeuillé par un nouveau drame dans le secteur de l'orpaillage. Au moins 48 personnes ont perdu la vie dans l'effondrement d'une mine d'or artisanale dans la région de Kayes, dans l'ouest du pays. C'était hier. Plus de détails avec notre correspondant régional, Serge Daniel.
Situé dans la région de Kayes, dans l'ouest du Mali, le site d'orpaillage était principalement exploité par des ressortissants chinois sans les autorisations nécessaires. Un responsable d'une association qui s'intéresse au secteur de l'orpaillage dans la région de Kayes donne plus de détails.
C'est une activité qui se déroule illégalement. Selon nos représentants qui sont sur le terrain, les femmes sont rentrées sur le site chinois qui s'est éboulé en leur poussant au fond du trou. Et dans le trou, il y avait de l'eau. C'est ce qui a amené ce drame.
Sur les 48 morts après l'éboulement, tous des Maliens, 44 femmes et un enfant mort au dos de sa mère. Les autorités locales se sont rapidement rendues sur les lieux pour les premiers secours, mais sans véritable grand moyen. L'orpaillage illégal attire du monde dans les régions du Mali. En janvier dernier, un précédent éboulement survenu dans le sud avait causé la mort de plus de 70 personnes. Serge Daniel, Dakar, RFI.
En bref, la première journée des assises nationales hier au Niger, rendez-vous ouvert par le général Tiani. Il a réaffirmé que cet événement donnerait lieu à un projet de charte de la transition. Ce samedi, lors de la cérémonie d'ouverture, des délégations officielles du Burkina Faso et du Mali étaient présentes, ainsi que l'ancien président Issoufou Mahamadou. Premier signe de vie de l'otage Alassane Souleymane, un haut fonctionnaire nigérien enlevé le 11 janvier dernier par des hommes armés dans une vidéo enregistrée ce 12 février. On le voit assis dans une chambre adressant un message aux autorités nigériennes. Il leur demande qu'elles se penchent sur son cas. Alassane Souleymane avait été enlevé dans son jardin non loin du parc du W, une zone sous contrôle de l'EIGS au sud du Niger, située à la frontière avec le Bénin. Au Sénégal, maintenant, les syndicats se mettent en ordre de bataille et veulent afficher leur unité. Les représentants des travailleurs s'indignent notamment de l'absence de dialogue avec les autorités et surtout de ne pas avoir vu la situation évoluer depuis l'arrivée au pouvoir du PASTEF en avril dernier et sa large victoire des législatives en novembre. Conditions de travail, niveau de vie sont des sujets qui ont été largement abordés lors d'une conférence de presse vendredi. Les syndicats en ont assez, n'excluent pas une grève générale, Gwendal Lavina.
Le rassemblement à la Bourse du Travail Cœur Madia était véritablement une mise en garde à l'adresse des autorités. Pour montrer leur unité en ces temps de crise, les représentants syndicaux ont d'ailleurs créé une nouvelle plateforme, le Front syndical de la défense du travail. Ils dénoncent l'accumulation des problèmes rencontrés par les travailleurs, qu'ils évoluent dans le secteur privé ou dans le secteur public. Parmi les plus graves, selon eux, l'explosion récente de licenciements qu'ils qualifient d'abusifs, comme dans le secteur pétrolier, au port de Dakar ou dans les administrations. Le coût de la vie ainsi que les retards de paiement, voire le non-paiement des salaires font aussi partie de leurs préoccupations. Mais le point sur lequel la frustration est la plus grande, c'est ce que les syndicats qualifient de blocage systématique du dialogue social. Lors de ses vœux, le président de la République avait pourtant annoncé une consultation des partenaires sociaux. Trop long et trop loin, répondent les représentants de travailleurs qui annoncent des rassemblements dans tous les départements du pays et comptent déposer un préavis de grève générale s'ils ne sont pas entendus. Gwendal Lavina, Dakar, RFI.
Sur l'île Maurice, Pravin Jugnauth a passé la nuit en prison. L'ancien Premier ministre a été interpellé hier pour des soupçons de blanchiment d'argent. Hier, les policiers ont retrouvé chez un opérateur touristique 4 valises contenant 2 millions d'euros en liquide. Les documents saisis pointaient vers l'ancien chef du gouvernement. 3 autres personnes ont été arrêtées dans cette affaire. Et puis un tout petit mot de sport pour finir. Et les championnats d'Afrique de badminton touchent à leur fin au Cameroun ce dimanche. Demi-finale et finale des simples masculins et féminins ainsi que les doubles. L'Égypte pourrait rafler le gros. Quatre représentants égyptiens figurent en effet dans les différents derniers carrés. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vos programmes continuent sur la Radio du Monde.